When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Chers auditeurs,
dear listeners,
bonjour.
Welcome in Comme d'Archie Podcast Season 3.
Saison 3 dans le monde fascinant des architectes.
And in the architectural projects.
Je suis Anne-Charlotte Depont, passionnée d'architecture et docteur des universités en histoire de l'archi.
I am one of the spokespersons of Anne-Charlotte, who is a PhD in architecture history.
Merci.
Thank you.
D'être avec moi aujourd'hui.
To be with us today.
Et
and
maintenant.
Now.
Lundi en français, place au talent.
And Wednesday, let's talk projects. In English, of course.
Bienvenue dans Comme d'Archie.
Chers auditeurs, ravis de vous retrouver aujourd'hui en compagnie d'Yves Micot. Bonjour Yves.
Bonjour.
Bienvenue dans Comme d'Archie. Vous êtes architecte et vous avez un poste à responsabilité au sein de l'agence Amonic et Masson. Surtout, vous faites partie des premiers Europans ex aequo runner-up avec le collectif Carré Noir sur le site de Limoges. Pour le projet Les Petits Ventrevilles. Alors, ça sonne plutôt adorable. Et je me demandais si on pouvait rendre la ville adorablement résiliente. Vous aurez peut-être une réponse à nous apporter. Vos coéquipiers sur ce projet sont Tom Ollier, architecte, Léo Redon, Tony Delaunay et Maëlys Charmon, qui sont encore étudiants en architecture.
Tout à fait.
On va tout d'abord parler de vous. Vous avez déjà à votre actif 5 ans chez Amonic et Masson, avec une appétence pour les territoires, un passage à Moscou. Vous allez donc vous-même nous raconter ça. On va commencer par le début. Quel est votre parcours? Quelle a été votre jeunesse? Où s'est ancrée votre envie d'architecture? Quelles ont été vos études?
Merci tout d'abord pour l'invitation. C'est très honorable et généreux de votre part de nous recevoir, enfin de me recevoir au nom du collectif que nous représentons avec donc mes collègues, amis et camarades que vous avez cités. Je suis le seul de l'équipe à être domicilié à Paris, donc c'était un peu compliqué pour le reste de l'équipe de venir.
D'accord, mais en tout cas, merci à vous d'être venu.
Et donc, concernant mon parcours, ma relation à l'architecture, elle a commencé au lycée. C'était courant 2009, je crois bien, ou même un peu plus tôt. J'ai rejoint une filière post-brevet de brevet de technicien, de collaborateur d'architecte, donc qui nous permettait d'avoir une approche un peu d'un métier, tout de suite une approche un peu professionnelle dans un cursus de bac plus ou moins général. Et j'ai commencé par du dessin industriel, l'affinité du rotring, du calque, voilà tout ce qui était un peu dans la nature du métier de l'architecte d'une autre époque aujourd'hui maintenant. Mais j'ai eu un premier pied dans cette génération d'architectes qui grattaient vraiment sur table à dessin. Donc c'est là qu'a commencé mon parcours. Et suite à cette formation en 3 ans au lycée Arago à Reims, en Champagne-Ardenne, puisque je suis né en Champagne-Ardenne, à Châlons-Champagne, j'ai eu la chance et l'opportunité de pouvoir suivre une continuité de mes études en école d'architecture. C'est-à-dire qu'à l'issue de ce brevet de technicien, les différentes orientations possibles étaient orientées soit dans le génie civil, dans ce qui était proche du BTP. On était formés à être des dessinateurs, des collaborateurs d'architectes pour des bureaux d'architecture. Aujourd'hui, c'est une formation qui s'est complètement perdue. Ça a été fermé par Nicolas Sarkozy. Je fais partie d'ailleurs de la dernière génération de diplômés français de brevets de techniciens. Et donc, j'ai continué mon parcours à l'école d'architecture de Clermont-Ferrand pendant 5 ans à Clermont-Ferrand et en effet une 6e année de voyage universitaire à Moscou, où j'ai pendant 1 an travaillé à l'Institut d'architecture de Moscou pour ma 4e année d'études, celle de Master 1 post-licence.
Donc vous avez vécu 1 an à Moscou?
Tout à fait, j'ai vécu 1 an à Moscou, pas trop loin du parc Gorki, dans ce qu'on appelait un Obchegitie, qui est en fait le campus universitaire des étudiants en architecture de Moscou. Donc c'est une expérience formidable. Et ce qui m'a attiré finalement à aller là-bas, c'était puisqu'à l'époque j'étais dans un domaine d'études qui était très orienté sur l'urbanisme. Et je trouvais que là-bas, il y avait un regard sur l'urbanisme qui est complètement différent du nôtre, notamment sur la manière dont les voiries sont traitées en centre-ville. On fait face à des autoroutes urbaines en centre et à des petites nationales pour connecter les différentes villes, la densité des logements, l'histoire de la construction de ces territoires. Enfin, voilà, c'est quelque chose que je trouvais très intéressant d'aller voir en fait in situ. Et
ça vous a enrichi ?
Énormément. Énormément, autant d'expériences, de pratiques, de parcours, d'architecture, d'espace, mais aussi de rencontres qui m'ont permis d'avoir un regard différent de celui que j'aurais pu avoir, prétendre avoir avant d'y aller. Quoi.
Ça fait longtemps que vous...
En 2015. Donc ça fait un petit moment maintenant, oui.
7 ans.
C'est ça.
Ça a dû terriblement vous frapper, ce conflit.
Tout à fait, d'autant plus qu'aujourd'hui, je partage ma vie avec ma compagne qui est russe. Et donc du coup, forcément, ça a eu un impact aussi... très très fort en ce moment, puisque du coup je partage aussi toute cette culture au quotidien. Et voilà, la situation, elle est difficile et pour les Russes et pour les Ukrainiens,
bien
puisque les uns comme les autres n'ont rien demandé en fait pour la plupart.
Ouais.
Et même si les plus grandes victimes à ce jour sont les Ukrainiens, beaucoup de familles russes entretiennent des relations familiales, notamment avec des Ukrainiens. Ils sont tous au moins un cousin, un parent, quelqu'un de plus ou moins proche, donc c'est assez difficile.
Bon, souhaitons que l'issue soit trouvée rapidement.
C'est ça. Pour conclure, voilà, Moscou, c'était une expérience formidable, autant sur le plan social, humain, que architectural. Et ça a eu en effet un impact aussi sur ma vision aujourd'hui de la pratique du métier et la manière dont on conçoit les projets. Forcément, y a toujours une attention, un souvenir, une image, un moment, un lieu qui va nous remettre en parallèle d'une idée, d'un propos, et dans lequel on va essayer de tirer des forces pour le projet.
Vous avez commencé votre activité d'architecte finalement à Moscou, mais après ?
Alors après, je suis rentré, donc après mon voyage à Moscou, je suis rentré en France finir ma dernière année donc, de Master 2 à l'école d'architecture de Clermont-Ferrand, Master Evan, qui est entre ville, architecture et nature. Et donc le lien avec l'urbanisme, c'est que c'est un domaine d'études qui a été fondé par Frédéric Bonnet, et donc voilà, un expert en urbanisme, si je puis dire, et qui nous a transmis, via les enseignants à qui il avait transmis initialement, cette passion pour l'urbanisme, et voilà, qui s'est traduit donc, par ce voyage à Moscou, puis ce retour en France, et donc, à la fin du diplôme, une orientation dans une agence d'architecture qui fait aussi bien de l'architecture que de l'urbanisme, enfin qui traite un peu de ces échelles de la ville, de la métropole. Et ma première expérience professionnelle de salarié, donc post-diplôme, chez Amonic et Masson, elle s'est faite au travers des grands projets IMGP, imaginons le Grand Paris, et j'ai eu l'occasion de pouvoir travailler sur le site de Pleyel et sur le site de Marne Europe. Et donc c'était des projets formidables, puisqu'on était tout de suite en fait en équipe, en collaboration avec d'autres grandes boîtes d'architecture, notamment MVRDV, notamment il y avait BIG. Et en fait, de se dire que voilà, on sort de l'école d'archi, on arrive dans une agence d'architecture, on a l'occasion de travailler sur des projets qui relèvent un peu de l'utopie des projets étudiants, puisqu'on est là vraiment pour proposer des idées novatrices. On a un cahier des charges qui est défini, mais on a une liberté de proposition qui est assez exceptionnelle dans ce cadre.
Oui, même dans la programmation.
Bien sûr, puisque c'est nous aussi qui participons à la programmation. Donc là, on a un vrai rôle d'urbaniste. Et voilà, c'était vraiment une expérience fascinante, et d'autant plus que les projets qu'on avait pour habitude de prendre en référence en tant qu'étudiant pour expliquer des propos, montrer les parallèles entre des démarches, et bien là, on était en collaboration tout de suite avec ces personnes-là, et c'était formidable.
Ça aboutit, ces projets, ou c'est resté
Malheureusement, pour notre agence, on n'a pas eu d'issue positive sur les deux grands paris, mais forcément, après, ça a tissé du lien, ça a généré des contacts, et ce qu'on pourrait considérer comme un échec, découle toujours de nouvelles opportunités, donc c'est toujours positif.
Ouais. Donc, dans cette agence, vous travaillez sur les projets urbains, vous pouvez peut-être pas vous étendre, mais...
C'était un peu une exception, finalement, en termes d'urbanisme, ce type de projet. Pour la plupart des commandes auxquelles on répond, ou des concours sur lesquels on postule, on est quand même plus dans un propos architectural qu'urbain, même si... En tout cas, ma vision, celle du collectif également, elle est de ne jamais dissocier l'urbain du projet, d'avoir toujours en mémoire et en conscience le fait qu'on s'inscrit dans un environnement, et même si on ne nous demande pas de travailler sur celui-ci, on se doit d'être en harmonie avec celui-ci, quoi qu'il arrive. Oui. Et donc, voilà, ça, c'est un peu la posture qu'on a. Donc, on a toujours une relation à l'urbain. Même, parfois, on travaille aussi avec les urbains de la ville, puisque quand on travaille notamment dans des ZAC, on a les urbains avec qui on partage les avancements du projet. Des fois, on peut les faire réintervenir sur la manière dont l'espace public autour du projet, il est traité, pour qu'il soit justement plus en accord avec le projet dans son développement. Voilà, donc...
Est-ce que aujourd'hui vous avez le sentiment d'avoir accompli ce que vous imaginiez quand vous êtes sorti de l'école ? Alors, vous êtes
oui,
très,
avec 5 ans d'expérience. Je pense que le sentiment d'accomplissement, à mon sens, je pense pas qu'il arrive en fait dans cette carrière d'architecte, puisque on est en perpétuelle évolution, on est tout le temps remis en question. Et même, je pense, quelqu'un qui a plus de 60 ans, 40 ans de pratique, je sais pas s'il pourra penser un jour qu'il a accompli quelque chose. Il y aura toujours un sentiment de « Ah, j'aurais pu faire différent, j'aurais peut-être dû faire autre chose. » Avec le recul, les pratiques évoluent, les milieux évoluent.
Ou alors, j'ai encore ça à faire.
Ou j'ai encore ça à faire, mais on aura toujours quelque chose à faire. le fondamental du métier.
Oui. Alors, finalement, l'histoire de vos projets, c'est essentiellement à Monique et Masson.
Des professionnels, oui.
J'aurais quand même aimé, avant qu'on aborde le projet Europan, que vous me donniez votre point de vue sur la ville verticale, parce que je crois qu'il y a quand même pas mal de projets, et en même temps vous appartenez à une génération d'architectes où vous avez la question de la durabilité, de l'écologie chevillée au corps, et ça m'intéresse d'affiner les points de vue. Il y a un moment où la ville verticale apporte aussi des réponses.
Bien
donc...
sûr. Enfin, en ce qui me concerne, je pense que c'est une bonne chose. La ville verticale, après, tout dépend une fois de plus de comment elle est faite. Et faire du vertical pour faire du vertical, c'est-à-dire pour empiler des logements les uns sur les autres dans une course à la rentabilité, à la ruée vers l'or de la moindre parcelle de foncier, c'est une mauvaise chose. Par contre, si on compare avec ce qui se passe aujourd'hui, notamment en périphérie, dans les milieux ruraux, sur la question de l'étalement urbain qui est pour la plupart du temps désastreuse, en effet, la question de l'empilement des fonctions, des usages, pour libérer justement de l'espace libre et non bâti, elle me paraît essentielle. Maintenant, c'est une question de mesure, d'équilibre. Il y a des milieux où c'est pas possible et des milieux où il faut vraiment le mettre en avant. Je pense que c'est vraiment chaque territoire a ses spécificités. Nous, justement, l'intitulé de notre collectif, il s'appelle ITERA, donc Introspection des territoires anthropiques. Et c'est une manière pour nous de définir un peu cette approche où on considère que chaque territoire est une forme d'organisme vivant avec sa conscience et aussi son inconscience, et pour lequel on doit tout le temps être en introspection, réfléchir à définir quelle est l'identité d'un lieu, quelles sont ses ressources, quels sont les facteurs qui le définissent. Et c'est autour de toute cette articulation, de cet ADN en fait, d'un milieu, qu'on peut définir au mieux l'avenir vers lequel le tendre. En fait. Je pense que... Et donc la ville verticale... Je dirais de manière générale, oui, pour préserver les espaces aujourd'hui qui se font grignoter, les espaces libres, les espaces naturels, tous les espaces non bâtis aujourd'hui qui disparaissent de plus en plus. Pendant mes études, on avait un de nos profs qui nous avait dit, alors je ne sais pas si c'est encore d'actualité, que tous les 10 ans, en France, on perdait l'équivalent d'un département en fait en surface non bâtie, enfin de surface agricole, surface naturelle,
c'est énorme.
À propos d'une surface bâtie. Donc oui, on se dit que si on continue de cette manière, à terme... qu'en est-il des espaces verts, des espaces... Et aujourd'hui, avec la résonance des questions écologiques, c'est des choses pour lesquelles on est obligé de respecter cette conscience, ces objectifs, et nous, ça ne sera jamais détaché de notre démarche. Donc, que ce soit dans le cadre d'Europan, ou alors après, dans le cadre de l'agence, où c'est beaucoup plus compliqué, puisqu'on est moins sur on est moins dans l'expérimentation, dans la proposition, à essayer de convaincre des jurys, des élus, que nos idées, elles sont plus intéressantes sur ce territoire. On est plus dans l'objectif de répondre à une commande. Mais quand bien même, parfois, on arrive à dire « Bon, là, vous êtes un peu trop gourmand. Nous, on pense que à cette échelle, on ne peut pas se permettre de faire plus que ça parce que ça se fait au détriment de ce qui se passe autour, au détriment des futurs acquéreurs ou locataires. » Et donc, voilà, il y a toujours un peu l'échelle du compromis, de la discussion. On essaye toujours d'avancer pour être dans la préservation au maximum et de générer des espaces qualitatifs au possible, que ce soit et pour les riverains et pour les futurs occupants des lieux.
Avec une empreinte carbone, si possible.
Ça, on essaye de choisir les bons matériaux, de privilégier les ressources locales, l'économie circulaire, tout ce type de propos.
Finalement, l'architecte, le rôle de l'architecte, c'est ça, c'est d'être un peu... d'agir comme du poil à gratter.
Je pense qu'on a un métier humaniste. Je pense que le métier d'architecte est un métier humaniste et qui doit se faire par empathie. C'est-à-dire qu'on doit être capable de se mettre dans la situation de tout un chacun pour réfléchir à l'environnement. C'est-à-dire que souvent, en tout cas, je pense que c'est ce qui fait défaut. C'est souvent, on fait un projet, une fois qu'il est fini, on l'oublie. Et puis, si on n'habite pas le territoire, bon, on se dit, j'ai fait un bel objet, les gens sont probablement contents, mais ça ne dépasse pas cette philosophie. Dans le cadre d'Europan, ça a été vraiment le fait de pouvoir approfondir et de s'imaginer vraiment au plus proche de chacun comment il pourrait percevoir notre proposition, nos idées. Est-ce que c'est la personne quand elle traverse le site? Est-ce que c'est la personne quand elle y habite? Est-ce que c'est la personne qui passe devant en voiture parce qu'elle va au boulot? C'est vraiment essayer de se mettre dans la peau de chacun et d'essayer d'imaginer qu'est-ce qu'il va penser et qu'est-ce qu'on va pouvoir lui offrir au travers de notre projet. Voilà, je pense que c'est un peu ça aujourd'hui la démarche, notre posture en tout cas.
Alors, le fameux projet Europan, les petits ventres-villes à Limoges. Vous pouvez, au nom de l'équipe, en parler ?
Oui, alors tout d'abord le titre, Les Petits Ventres-Villes.
C'est super comme titre.
On doit ce titre-là à Tom Ollier et Léo, qui sont tous deux, en fait, limogeaux de base. Donc, pour parler un peu de l'équipe tout d'abord,
parce que j'ai
très peu parlé d'eux. Donc on s'est tous rencontrés à l'école d'archi. Et c'est donc Tony Delaunay, mon fidèle ami, qui a été un peu le liant de ce groupe-là, puisqu'il a eu un parcours segmenté. Il a commencé ses études avec moi, a fait un petit break pour découvrir, voyager, explorer d'autres milieux, pour finalement revenir et terminer. Et en fait, on s'était recroisés il y a un an ou deux, puis on s'est dit « putain, ce serait génial qu'on se fasse un Europan ensemble ». Et donc, on s'est remis ensemble. Avec Tom, on se connaissait aussi de l'école. Et puis, par procuration, on a rencontré Maëlys et Léo. Enfin, pour ma part, je ne les connaissais pas avant de former ce groupe-là. Et donc, ça a été une synergie qui s'est faite autour de valeurs communes qui nous ont été un peu partagées et enseignées à l'école de Clermont-Ferrand. Toutes ces valeurs dont je viens de parler avant, sur le côté un peu humaniste de notre métier d'architecte et une vision un peu commune de ce que doit être finalement notre métier, quel est notre devoir au travers de l'exercice de la profession. Et donc, le choix de Limoges s'est porté sur le fait qu'on avait deux limogeaux dans l'équipe qui connaissaient très bien le territoire, qui en étaient fiers et amoureux. Et on s'est dit, on va aller là-dessus. En plus, c'était en périphérie de Clermont, enfin pas très loin. Et donc, vu que tous les membres du groupe, sauf moi, sont issus région Centre-Auvergne, ça a été le choix qui a été retenu.
Stimulant.
Et donc, pour le titre, en fait, il fait référence à un festival culinaire qui a lieu, qui s'appelle Les Petits Ventres. Et qui est connu. Là-bas, il n'y a pas un limogeau qui ne connaît pas le festival. Donc c'est vraiment une reconnaissance locale. Et quand on parle de l'identité d'un lieu, l'écho comme ça, un festival culturel, on trouvait que ça avait une très bonne résonance. Et surtout que c'était un jeu de mots sur le fait que notre projet aujourd'hui traite justement de la question des vides. Donc quand vous parlez tout à l'heure de densité de la ville verticale, là, ce n'était pas le sujet de faire une ville verticale, mais c'était le sujet de comment on génère des vides, puisqu'aujourd'hui, nous, on considère que c'est les vides qui fabriquent la ville. C'est autour des vides qu'il y a des espaces d'activité, des animations, des activités à rez-de-chaussée, que ce soit des fois des parcs ou des fois des vides urbains, des places minérales. Mais la concentration d'activité, elle se fait souvent à travers des vides dans les villes. Et là, le sujet, ça a été, sur Limoges, de se dire qu'on a une figure territoriale qui est les bords de Vienne, qui traverse la ville, qui coupe la ville en deux, entre la ville historique et un peu la ville pavillonnaire. Et aujourd'hui, en fait, même cette ville historique, son étalement urbain n'est pas favorable finalement à créer une liaison assez franche et directe avec cet élément géographique très important. Et donc, l'idée pour nous dans ce projet, ça a été de développer tout un microcosme d'espaces publics, de vides, d'essayer d'aller révéler finalement des espaces qu'on pensait peu traitables ou difficilement traitables, comme ça, par une succession d'actions, et donc de reconnecter la figure des bords de Vienne au centre-ville. Et donc, c'était de générer plein de micro-centralités, donc des petits centres-villes, et le festival culinaire Les Petits Ventres, on s'était dit Les Petits Ventres-Villes, c'était un jeu de mots assez amusant qui expliquait à la fois le fait qu'on se base sur des connaissances locales, territoriales, pour produire un projet, et en même temps, on a cette réflexion d'architecte urbaniste sur la question des vides, des pleins, des espaces et des pratiques.
C'est un petit clin d'œil peut-être aussi au film absolument génial de Peter Greenaway, Le Ventre de l'Architecte, ça vous dit rien ?
Si, et c'est la BO. Je n'ai pas vu le film, mais je connais très bien la BO. Malheureusement, c'est un très beau morceau de violon-piano.
Ouais. je vous le conseille en tout cas. Alors, qu'est-ce qu'il y aurait encore à dire peut-être sur ce projet ?
Ce qu'il y aurait à dire déjà c'est reparler un peu peut-être la philosophie à nouveau qui est celle du collectif et celle qu'on a mis dans le projet, qui est celle de Donc, comme je disais, d'une architecture empathique qui se soucie du vivant, que ce soit le vivant humain, social, ou même le végétal, l'animal. C'est vraiment une architecture qui se veut en adéquation avec les milieux. Et ça a été un peu une réponse, je pense, au contexte qui nous a frappé un peu sur les 5 dernières années, entre la crise des Gilets jaunes, qui a révélé un peu au grand jour le fait qu'en France, finalement, il y a quand même un très grand phénomène de précarité, et notamment chez la classe de gens qui travaillent, finalement. Et suite à ça, la crise Covid, qui nous a rendu compte que finalement, on était très dépendants de nos espaces et de nos lieux de vie, et qu'il y avait également des inégalités urbaines, architecturales et sociales, du fait du lieu où on réside, et qu'une personne qui était confinée avec un rayon de circulation à 1 km à Caen ou au Touquet, ça devait être à peu près correct. Par contre, celui qui est en banlieue périphérique ou en centre urbain métropole, comme à Paris, et surtout avec des surfaces de vie très réduites, ça n'a pas été la même difficulté, la même approche, je pense, de vie. Et donc, pour nous, ça a été de repenser à tous ces phénomènes qui nous sont arrivés, et d'arriver à faire un projet qui vient faire le lien et aider les gens à avoir de nouveaux espaces plus qualitatifs, avoir des nouvelles sources d'activité, de nouvelles sources économiques. Et c'est vraiment arriver à créer un tissu avec tout ça pour faire le projet. Parce que nous, on considère que quand on est architecte urbaniste, donc on prend soin du vivant, mais pour prendre soin finalement des habitants et des relations qu'ils entretiennent, il faut prendre soin des espaces en fait qui connectent les habitants. Et donc voilà, pour prendre soin des habitants, il faut prendre soin des espaces qui les mettent en relation. Ça a été vraiment la phrase, la doctrine qui nous a permis de nous lancer dans ce projet avec ces convictions-là que nous, voilà, on doit réfléchir de cette manière.
Formellement, ça se traduit comment ?
Eh bien, ça se traduit dans, du coup, cette... Après, c'est vraiment un travail d'analyse, de loupe par situation. Donc, il y a cette idée globale de, on doit générer des vides pour trouver des espaces qualitatifs, pour accentuer les parcours, essayer de décongestionner parfois le problème de l'automobile. C'est vraiment, en fait, de prendre toutes les problématiques, la question de la ressource, de la mobilité, de l'économie, du social, de la géographie, de la nature, toutes ces dimensions-là, et d'essayer, en fait, in situ, de dire, ici, on a telle problématique sur la question de la mobilité, comment on peut y intervenir ? Ici, on a un problème sur la question de la densification, ici, on a finalement des friches, est-ce qu'on est capable de recycler ou alors de refaire du réusage ? Est-ce que c'est vraiment à chaque fois de s'interroger à la loupe sur les différents sites ? Après, il y a quand même un fil conducteur qui permet de construire le projet, et notamment sur la question de comment on génère des espaces libres. Et donc, dans le cadre de Limoges, notre point de départ, ça a été la mairie, puisque c'est un peu l'entrée du site, où on s'est rendu compte qu'il y a une très grande centralisation de tous les services de la mairie et annexes de la mairie qui se sont concentrés autour. Et ça a généré des surfaces de bitume et de parking qui sont considérables et qui, justement, sont déjà une première nuisance sur la question des flux, des cheminements piétons. Et donc, notre première question, c'était comment on fait déjà pour décongestionner ce point d'entrée entre la ville, cet îlot, et les bords de Vienne. Parce que l'îlot du site de projet, c'est vraiment un très grand quartier, une zone tampon entre le centre-ville et les bords de Vienne. Et à partir de là, c'était de prendre appui sur les autres opportunités des sites en disant, au sud, on avait la friche Enedis avec déjà une grande tour, on avait déjà un bâti, où la question de la reconversion, de la réutilisation était posée sur la table. Et donc, nous, on s'est servi un peu justement des différents aspects qui existaient déjà sur le site, qui pouvaient être des appuis ou des leviers pour le projet. Et donc, progressivement, on s'est dit, le programme de la mairie, on peut essayer de faire un deuxième pôle mairie qui peut être le levier aussi d'un nouveau quartier, où ça va générer des écosystèmes autour, on va pouvoir implanter de nouveaux quartiers, définir une limite à l'urbanisation, générer des vides. Et c'est finalement comment on définit des nouvelles règles. Plus qu'on définit un projet, on va définir un peu des nouvelles règles de ce qu'on est capable. Et au travers des dessins, ça a été de révéler les capacités spatiales du site.
Alors justement, j'allais y venir. Comment vous l'avez représenté ?
De diverses manières. C'est-à-dire que suivant les sites, suivant justement la géographie, la topologie, tout ça, ça a été justement de définir le maximum capable en termes de densité. Sur l'analyse des programmes, on a beaucoup fait d'études au travers des documents de l'INSEE qui recensent justement la question des logements vacants, la question des secteurs économiques, le niveau de précarité chez les gens, tout ça. Et ça a été de croiser toutes ces informations-là pour essayer d'être au plus juste dans nos propositions. Maintenant, c'est quand même assez hypothétique ce qu'on fait. Ça demande une réflexion supplémentaire, approfondie, ça demande une continuité, ce travail. Mais c'était, je pense, un très beau projet à présenter comme ça, pour montrer vraiment, révéler des inévidences qui deviendront des évidences. C'est-à-dire que quand on voit un site, les transformations qu'on opère, elles ne peuvent pas paraître évidentes au premier lieu. Puis une fois qu'on les présente sur le papier, on se dit « Ah, mais en fait, c'est vrai que de faire ça, ça fait sens ». Et donc, voilà, petit à petit, on construit le projet comme ça, on essaye de... Et surtout, d'avoir l'impact le plus léger possible, puisque la thématique de Repens, c'était care. Et care, c'est prendre soin, et comme je le disais précédemment, prendre soin donc, du milieu et des espèces qui l'habitent. Et donc, ça a été ça, vraiment, la réflexion. Et c'est un projet qui s'étale sur l'ensemble du site. C'est un parcours, en fait, d'espace public qui part du centre-ville jusqu'au bord de Vienne. Et chaque centre devient sujet, finalement, à un traitement particulier et qui s'accompagne d'une multiplicité de programmes et avec une grande densité de logements, parce qu'on sait aujourd'hui, malheureusement, que c'est... Enfin, malheureusement, et heureusement, si, que c'est... quand même un des leviers économiques qui permet de générer des projets aujourd'hui sans densification. C'est très difficile aujourd'hui de concevoir des espaces et des programmes autres. C'est-à-dire oui. qu'il faut faire du logement pour pouvoir financer des programmes annexes, notamment d'espaces publics, de RP, etc.
Vous avez, dans votre expression graphique, trouvé un fil conducteur à toute cette diversité. Et vous aviez des talents de dessinateur à l'intérieur de l'équipe ?
Alors, on a une équipe formidable, avec des gens très talentueux, vraiment. Et c'est d'autant plus frappant pour moi qui suis sorti de l'école en 2016. Et aujourd'hui, de travailler avec du coup, une partie de mon équipe qui est en train de refinir ses études, de voir déjà l'évolution finalement des outils mis à disposition et de la manière dont les gens les utilisent. Enfin, ils m'ont bluffé, vraiment. Toute mon équipe m'a bluffé. Je me sentais un peu plus vieux de l'équipe, du coup. Après, on a tous un peu une méthodologie commune. Pour ma part, j'étais un des pionniers à l'école d'architecture de Clermont-Ferrand à utiliser l'outil 3D. À l'époque, c'était vraiment, je crois que j'étais un des premiers en première année d'archi. Dans toute l'école, personne ne maîtrisait ces outils-là. Et c'est quelque chose, voilà, par affinité avec Tony. On a passé nos études à bricoler sur les mêmes logiciels. Donc, on avait un peu... des outils en commun et une appréhension de ces outils qui étaient communes. Et même la nouvelle génération, c'est la même chose, mais avec encore plus de performance, bien entendu.
Donc vous avez réussi à exprimer...
Et sans difficulté, et voilà, en plus du fait ensemble. Qu'on était en période Covid. Et personnellement, moi, je ne les ai pas vus une seule fois en physique durant toute l'étape d'élaboration du projet. On a tout fait en visio, en partage, et ça s'est passé vraiment merveilleusement bien. Et voilà, après nous, notre outil, c'est beaucoup du coup la représentation 3D, notamment quand on ne peut pas se déplacer. On considère, et on a passé peut-être un mois et demi, avant même de commencer nos études de projet, à faire une représentation au mètre près, même au demi-mètre près, je dirais, de l'existant. Donc on a fait ce travail de redessin de l'ensemble du site de projet et des alentours, et en dessinant chaque bâtiment un à un, chaque toiture une à une, en les mesurant sur le Google Earth. Et bien, au final, on a la sensation de connaître le site avant même de l'attaquer. C'est-à-dire qu'on a été sur place une après-midi, deux après-midi, les Limoges, je connaissais, mais moi, pour ma part, j'ai pu y aller qu'une seule fois. Le fait de tout redessiner, on a déjà une vision, c'est comme si on était sur place dans le site. Donc après, on a tous les outils aujourd'hui, avec le Street View, pour avoir vraiment les textures, les ambiances, plus toutes les données. Enfin, maintenant, avec Internet, c'est magnifique. On a accès à une base de données infinie. Et donc, voilà, la base de notre travail, ça a été de faire une maquette vraiment réelle dans laquelle on peut avoir une vision d'urbaniste à vol d'oiseau en tournant autour et en même temps une vision à l'échelle à la première personne en se mettant dans des points de vue, en analysant justement la morphologie des bâtis, savoir si là, dans la perspective, en effet, on a de la place ou pas. On a une vision sur le clocher à 300 mètres derrière, on va peut-être pas construire un truc ici. C'est vraiment à chaque fois une réflexion à toutes les échelles et en ayant conscience de tout ce qui constitue le site. C'est vraiment comme ça. Et donc, ce travail préliminaire qui prend au moins un bon mois, ça a été la base de notre travail et qu'on fait collectivement à 5. Et après, chacun, sur la finalité des processus graphiques, chacun ses affinités, maîtrise peut-être plus un outil qu'un autre. Et là-dessus, on a été tous très complémentaires.
Super.
Et ça s'est passé vraiment merveilleusement.
Alors, si vous acceptez de nourrir un peu la page Instagram de Comme d'Archi Podcast, les auditeurs vont venir découvrir parce que ça a été très, très liké sur les autres primés européens. Je vous invite à partager vos planches si vous le voulez.
Avec plaisir, voilà. De toute façon, c'est public. Donc.
ça va être réalisé ? Est-ce que vous discutez avec Carré Noir ?
Pour le moment, nous sommes dans l'attente.
Vous êtes dans l'attente. Rien n'est décidé.
Après, en effet, on discute un peu avec Carré Noir, puisque ce sont nos amis. Ouais. Enfin, moi, je connais très bien Nathanaël Pinard, qui est aussi le représentant de cette équipe. Et voilà. D'ailleurs, on avait fait l'Europan tous les deux ensemble, avec Nathanaël de Carré Noir, sur la session 15.
Ah, d'accord.
À Hobie. Malheureusement, on n'a pas été sélectionné. Ça ne s'est pas joué de grand-chose.
Ouais.
Mais voilà, et puis l'avenir a été fait, qu'on a formé d'autres équipes. Et que, du coup, ça c'est surprenant de se retrouver tous les deux à nouveau en Europan, mais en face à face.
Et d'ailleurs, j'invite tous les auditeurs à écouter de la saison 3 les épisodes hashtag 64 et hashtag 65 avec le collectif Carré Noir, Nathanaël Pinard et Marc Viau, qui racontent l'histoire de leur projet Europan sur le même site de Limoges. Voilà.
Et c'est des projets qui sont plutôt complémentaires en plus. Donc.
Ouais, c'est ce que je ressens, vraiment. comment vous imaginez l'avenir ? Vous savez pas, pour l'instant,
l'avenir,
vous êtes dans le temps présent.
L'avenir, ça dépend de quel sujet, mais c'est vrai qu'on a tellement de préoccupations au présent que l'avenir, on s'y projette plutôt à court terme. Oui. Après, l'idée, c'est de continuer à pratiquer notre passion, de l'exercer, de s'épanouir en la pratiquant, et pourvu que ça dure.
D'accord. Alors, vous êtes encore fraîchement sorti de l'école, on va dire.
Oui.
Mais peut-être que vous avez des conseils à donner aux étudiants qui arrivent.
Oui.
Qui sont en plein dedans.
Plutôt. Et puis, dans mon expérience d'étudiant, sur mes dernières années, j'ai eu l'occasion et la chance de pouvoir faire du monitorat. Et donc, déjà, d'avoir un petit pied dans la pédagogie, dans l'enseignement. J'avais trouvé cette expérience formidable. Et surtout, cette relation aux étudiants, même si j'étais encore étudiant au moment où on est là, en train de donner des avis et des conseils aux étudiants, aujourd'hui, avec encore plus de recul, je leur dirais, soyez passionnés. Vivez de votre passion. Si vraiment vous avez cette chose en vous qui vous anime quand vous dessinez, quand vous représentez un espace, et cette satisfaction de l'objet fini, une fois que vous avez sué à finir dans les échéances, et on sait que c'est pas toujours évident à l'école de répondre aux échéances, d'imprimer les trucs, Et à la fin, si vous avez ce sentiment de fierté, du travail accompli, d'être allé au bout de vos moyens, d'avoir donné toute votre énergie pour accomplir un projet, c'est que c'est fait pour vous. Je pense que si vous êtes passionné, allez-y. Bon, des fois c'est fatigant, c'est pas toujours facile, c'est beaucoup de stress, d'anxiété, de fatigue. Mais à la fin, c'est que du bonheur.
Bon. Ça m'a fait surgir une question que j'ai d'ailleurs jamais posée dans Comme d'Archie. Ça va être une première et je pense que je vais la reprendre. Quels sont vos héros ou quels seraient vos héros, si vous en avez ? Il y en a plein ou pas ou...
Je dirais que c'est des héros anonymes.
Ouais.
J'aime pas tant la personnification, c'est plus des objets qui m'ont fasciné, ou des lieux dans lesquels on garde un souvenir. Et comment dire ?
Oui, ce qui vous inspire ?
Oui, c'est plus... Enfin, je parlerai pas d'héros, c'est plus finalement une expérience de vécu qui forge des convictions au cœur de la pratique, puisque nous, on est là pour fabriquer des espaces, fabriquer des lieux, et c'est plus un souvenir d'un échange, d'un lieu, d'un souvenir, de quelque chose qui aujourd'hui est... fait partie, comment dire, de je sais pas comment expliquer ça. En héros, je dirais c'est quand même la génération des architectes du Bauhaus, donc Gropius et toute la clique. C'est vrai que c'est un peu la doctrine qui nous a été enseignée à Clermont-Ferrand, et l'idée d'une architecture et sociale et en même temps qui mettait en avant tous les savoir-faire, qui est un peu l'orchestration de l'artisanat, des savoir-faire, des arts. Et aujourd'hui, de dire que l'architecte, c'est pas le rôle un et unique du mec qui arrive, qui fait son bâtiment, et voilà. Mais non, mais en fait, c'est juste un chef d'orchestre de tout un tas de savoir-faire, et c'est ça qu'il faut avoir conscience aujourd'hui, et c'est ça qu'il faut remettre aussi en avant. Je pense que ça s'est un peu perdu. Et voilà. Donc oui, ces gens-là, c'est pas des héros, mais c'est des gens qui ont marqué finalement notre vision aujourd'hui, et la pratique telle qu'on la conçoit aujourd'hui. Voilà.
Mmh. Un mot de la fin ?
Je sais pas, en tout cas, merci de m'avoir invité sur votre podcast. C'était très intéressant d'échanger avec vous et puis de partager des idées.
Avec grand plaisir. J'aime toujours avoir des équipes jeunes et conquérantes, mais pas dans le mauvais sens du terme.
C'est ça.
Merci d'être venu, d'avoir répondu à l'invitation. Chers auditeurs, merci pour votre écoute. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau Comme d'Archie en français. D'ici là, n'oubliez pas la version en anglais et prenez soin de vous. Au revoir. Chers auditeurs, merci pour votre écoute. Merci à Julien Rebourg, réalisateur, qui nous accompagne sur la partie son. N'oubliez pas de retrouver nos sujets en avant-première sur Instagram à l'adresse @comdarchipodcast. Si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcasts, plus un petit commentaire, ou sur votre plateforme de podcast favorite. Et surtout, abonnez-vous pour écouter tous nos épisodes gratuitement. À bientôt, et d'ici là, prenez soin de vous.